commençons notre séminaire intitulé « L'évangile de prospérité ou l'évangile de Jésus ». Il y a un choix à faire entre l'évangile de prospérité ou l'évangile de Jésus. Pourquoi on l'appelle quand même évangile de prospérité, parce que tout le monde dira, mais il n'y a qu'un seul évangile, c'est l'évangile de Jésus. On l'appelle aussi évangile de prospérité parce que c'est un message qu'on veut faire passer comme l'évangile. C'est pourquoi on se permet de dire l'évangile de prospérité. Et c'est un message très important dans ce temps de la fin, où nous soupirons tous à un réveil, nous soupirons tous à la manifestation de la gloire de Dieu au milieu des chrétiens, à nouveau. Mais comment voulons-nous que Dieu manifeste sa gloire si son message est altéré? Ça voudrait dire qu'il soutiendra quelque chose qui est faux. D'où la nécessité d'abord de retrouver le message original. On se souvient de la parole qui dit que dans les derniers jours, Dieu enverra Élie, l'esprit d'Élie, qui va réconcilier les pères et les enfants. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la manière dont fonctionnaient nos pères, les apôtres, nos prédécesseurs des réveils précédents, comment ils ont marché, il faut qu'on soit réconcilié avec cela. Et c'est ce que l'esprit d'Élie va faire. Parce que sinon, il va frapper le pays d'interdit. Sinon, Dieu va nous lâcher complètement. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de récupérer son peuple pur et de fonctionner, de marcher au milieu de nous. Le Seigneur vraiment aime marcher au milieu de son peuple. Qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Il réside, il aime ça. Mais il ne peut pas le faire réellement tant que les choses sont faussées, les bornes anciennes sont déplacées. Le Seigneur ne peut pas faire. Il faut d'abord qu'on redresse les choses. On a vu ça avec Élie. Avant que le feu tombe du ciel, Élie avait redressé l'autel du Dieu véritable. C'est ce que nous essayons de faire, redresser les choses, ramener le vrai message. Et nous croyons que si nous redressons l'autel du Seigneur, le Seigneur viendra à nouveau embraser, parce que nous sommes en manque d'embrasement. C'est une réalité. Il n'y a qu'à voir tous les efforts que nous faisons. Quand j'ai dit nous, c'est-à-dire le christianisme dans sa généralité, tous les efforts que nous faisons pour faire des publicités sur YouTube, pour faire des publicités par des marches pour Jésus, pour faire du bruit avec les haut-parleurs. Or, à l'époque, nos bien-aimés faisaient du bruit avec un miracle. Un paralytique assis à la porte la belle. Il marche. Et bien, tout le monde dit, mais est-ce que c'est lui? Il dit, mais oui, c'est moi. Alors, c'était le haut-parleur de l'époque. Un miracle puissant qui agite toute une ville. C'était le haut-parleur de l'époque. La puissance de Dieu. Aujourd'hui, c'est la force financière qui devient la pub de Dieu. Aujourd'hui, c'est le nombre des organisations à grand bruit, à grand raffort de pub, des organisations dans le fédéralisme, c'est ça que nous voulons utiliser pour nous faire entendre l'évangile. Et on a perdu la puissance du Saint-Esprit qui, à elle seule, suffit pour tout faire. Je me souviens de Farel, quand il y a eu la réforme à Genève. Farel a prêché dans une place publique. Il y avait 1000 personnes pour l'écouter. À l'époque, il n'y avait même pas d'électricité. Comment les 1000 personnes sont arrivées là? Voilà, c'était la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et nous en sommes privés aujourd'hui. Et nous avons soif. Et le Seigneur nous dit, redressez l'autel, à nouveau je viendrai, je glorifierai mon nom. Notre passage de base, afin que je n'oublie pas, ça sera Matthieu 6, 24. Matthieu 6, 24, il est écrit, dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est ça notre passage de base. Et il a donné un exemple, une phrase générale sur deux maîtres. Après, il précise, en l'occurrence, dans ce qui nous concerne, les deux maîtres. Dieu et Mammon, Mammon qui était la puissance démoniaque symbolisant, voilà, portée sur la richesse. Voilà. C'est ça que notre Seigneur dit. On ne peut servir deux maîtres. Maintenant, quand il dit, où il haïra l'un et aimera l'autre, comprenons que ce n'est pas immédiat. C'est progressif. Je peux paraphraser en disant ceci, car il finira par haïr l'un et aimer l'autre. Il finira par s'attacher à l'un et mépriser l'autre. Voilà. Comme quand il y a mélange, on finit par s'attacher à l'un, on finit, parce que c'est un processus. J'insiste sur ce terme de processus, parce qu'on ne s'en rend pas compte que finalement on déteste l'un. On ne s'en rend pas compte. Et malheureusement, notre expérience est... Le passé nous montre qu'on finit par détester Dieu. On finit par s'attacher à Mammon, à la prospérité humaine, plutôt que au Dieu véritable. L'expérience nous le montre. Bien sûr, on va parler de la prospérité. Donc, j'aimerais bien définir la prospérité. Je vais donner une définition large. Voilà, la définition large de la prospérité... C'est lorsque il y a avancement dans tout ce qui réjouit la chair, dans tout ce qui conforte la chair, lorsqu'il y a avancement, c'est ça la prospérité. Que ce soit la santé, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la réussite d'une entreprise, d'un travail. Je dis bien la partie qui réjouit la chair. Voilà, donc c'est ça la prospérité. La chair est heureuse parce que les choses avancent dans le sens de la réjouir, de la conforter, de la satisfaire. Voilà. Réjouir, conforter, satisfaire. Et c'est ça la prospérité. Après, l'acception, l'application la plus courante de ce que je dis, c'est la prospérité matérielle qui est le couronnement de toutes les autres prospérités. Donc, on soit en bonne santé, on a des richesses, on a... En général, la prospérité matérielle peut aider à avoir la bonne santé, ça peut aider à réussir dans ses entreprises, dans le métier qu'on fait. Par exemple, quand on est musicien, quand on est compositeur, on peut, avec la prospérité matérielle, louer des bons musiciens qui nous entourent, de sorte qu'on produise un bon spectacle. La prospérité matérielle reste quand même le centre de cette affaire de prospérité. C'est pourquoi le Seigneur parle de Dieu et Mammon. Parce que c'est... Il y a la réussite. Être un très bon ingénieur, c'est pas forcément matériel, c'est une réussite comme ça, dans le succès, mais c'est dans la renommée, mais ça reste quand même dépendant de la prospérité matérielle. Vous savez, on peut être très très intelligent, mais si on n'a pas les moyens pour mettre en œuvre l'appareil qu'on a conçu dans notre tête, publier le livre qu'on doit éditer, puisqu'on a trouvé des bonnes formules, si on n'a pas le circuit matériel qu'il faut. On est bloqué. La prospérité matérielle reste un élément très important. Mais je ne voudrais pas qu'on ignore les autres, parce que quelqu'un qui s'attache à la prospérité matérielle s'attachera forcément à la prospérité, aux autres formes de prospérité, telles que la santé, telles que la réussite professionnelle, voilà, telles que le nombre, voilà, la croissance numérique. C'est une forme de prospérité aussi. Donc quand on est dans une activité et que le nombre augmente, c'est de la prospérité. Donc c'est des choses, c'est un avancement qui réjouit la chair, qui conforte la chair et qui satisfait la chair. C'est ça la prospérité. Dieu est-il contre la prospérité d'une manière brute? Non. D'ailleurs, 3 Jean 2 nous dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mais on voit la nuance: comme prospère l'état de ton âme. Dieu n'est pas contre la prospérité, il est contre la priorisation de la prospérité. Le fait de mettre ça en avant, c'est ça, il est contre cela. Et il est contre le fait que la prospérité devient un maître. On ne peut servir deux maîtres. Dieu veut que la prospérité soit à sa place, quelque chose de secondaire. Le maître, que ce soit Dieu seul. La source de satisfaction, que ce soit Dieu seul. La source de bonheur, que ce soit Dieu seul. Et dans son processus à lui de donner le bonheur et la satisfaction, il peut user de la prospérité. Mais, comme je l'ai dit, secondairement. Prenons tout simplement l'exemple de Christ. C'est l'envoyé de Dieu à la perfection. C'est Jésus-Christ. C'est l'homme parfait. C'est l'homme tel que Dieu veut qu'il soit. Mais observons Jésus. Où est-ce qu'on voit là toutes les prospérités qu'on a citées? Oui, par moment, paf, ça disparaît après. C'est pour dire que ce n'est pas un grand élément dans la construction du bonheur selon Dieu. Voilà. Donc la prospérité, bref, c'est ce qui produit le bonheur charnel. C'est les choses qui produisent le bonheur charnel. Mais le bonheur pur, puissant, que le diable ne peut pas voler, c'est le bonheur que Dieu donne. Et ça, ça n'a pas pour support la prospérité. Quoique ça puisse parfois manifester cette prospérité, ce n'est pas ça qui est le support. Le support reste Dieu seul. De sorte qu'à la fin, on dise à Dieu seul la gloire. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous allons lire Exode, chapitre 5. Dans Exode, chapitre 5, je lis dans Exode, chapitre 5, mais ce que je vais lire dans Exode, chapitre 5, se trouve dans beaucoup d'autres passages. Je lis dans Exode 5, verset 3. Ils dirent à Pharaon, Moïse et Aaron: le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Voilà. Donc, dans ce passage-là, on dit: permets-nous qu'on aille offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais le même terme, on le voit encore au chapitre 7, au chapitre 9, où ils disent: Dieu veut qu'on aille le servir au désert. Voilà. Donc le but de la libération d'Égypte, c'est pour aller servir Dieu dans le désert. Donc c'est ça l'objectif. Donc on ne retrouve pas ça que dans ce passage. On peut le voir aussi dans Exode chapitre 9, où ils disent cela. Exode chapitre 7, ils disent, ben, Dieu nous a envoyé afin que tu lâches son peuple pour qu'il aille le servir dans le désert. Donc, quel était l'objectif de la libération du peuple de Dieu? C'est aller adorer Dieu. La relation était une relation d'adoration. Et quand on dit servir, c'est, il y a une partie qui veut dire adorer, mais il y a une partie qui veut dire être au service de quelqu'un, donc obéir à ses commandements, à ses instructions. C'est ça, servir. Servir, c'est ne pas qu'adorer. Hein, quand Jésus dit, on ne peut servir deux maîtres, les gens vont dire, ah mais moi j'adore pas l'argent, moi j'adore pas le matériel. Mais quand quelque chose te donne les instructions d'une certaine manière, c'est-à-dire que ta vie, c'est en fonction de la chose, donc tu sers la chose. Donc tu sers. Donc, parce que beaucoup diront, mais moi je ne sers pas, je n'adore pas à l'argent. Oui, mais tu as mis l'argent comme maître, automatiquement tu le sers. Voilà. L'argent est le centre de ton raisonnement. Donc tu le sers, tu as son service. C'est cela. Et on voit bien dans Exode chapitre 3 que Dieu voulait établir une relation avec son peuple d'adoration et de service, dont le servir, c'est-à-dire le considérer comme le maître et suivre ses instructions. C'est là la relation entre Dieu et son peuple. Et Dieu spécifie à son peuple quoi? C'est moi le créateur, le Dieu d'Abraham. Quand il donne sa loi, il dit « Je suis le créateur ». Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis l'Éternel. Donc, c'est moi qui suis l'origine, la fin de tout. Donc, c'est moi qu'il faut suivre. Tu dois tourner ton regard sur moi, que moi, pas sur autre chose. C'est pourquoi je t'amène dans le désert. Là, c'est vide. Tu peux que voir que moi. Voilà. C'est très. Je ne donne pas ça pour rien, cet exemple, cette histoire-là. Je donne ça pour qu'on comprenne l'idée de Dieu, qui est qu'il ne faut pas que tu t'accroches à un élément matériel. Il faut pas aller me servir dans le désert. C'est bien dit dans le désert. On n'a pas dit pour aller le servir dans le pays de Canaan. Il s'est vu d'abord dans le désert. Et donc, afin qu'il se retrouve dans un lieu vide, qu'il apprenne. Tu dois s'accrocher à Dieu en esprit et non pas en matériel. On comprend déjà l'idée de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut en profondeur? C'est une adoration en esprit, en vérité. Et Jésus va répéter ça à la femme samaritaine. Ce n'est pas à la montagne. Tu n'as pas à te crocher à un élément visible. Ce n'est pas au temple. Mais c'est en esprit et en vérité. Donc, utiliser la prospérité matériel, c'est-à-dire la prospérité qui réjouit les yeux, qui conforte la chair, entre en contradiction avec l'idée, dès le départ, dès l'Ancien Testament de Dieu. Parce que certains pourront vous dire, mais oui, mais l'Ancien Testament est rempli de promesses matérielles. Effectivement, et c'est rempli de promesses matérielles. Mais c'est toujours, si tu obéis, si tu me suis, si tu me considères comme ton Dieu, si, ben voilà la suite. Donc, il y a une condition, c'est d'abord vivre la véritable relation divine et Dieu garantit la suite. Mais il n'établit pas la relation en fonction du matériel pour dire c'est du donnant, c'est un marché, tu obéis. Et tu as tout ce que tu veux. De sorte que, finalement, le Seigneur se fâche quand il est incompris. Parce que les gens, finalement, ils se sont dit, tiens, nous pensions que tant qu'on est avec lui, on aura ce qu'il faut pour réjouir la chair. On aura de l'eau tout le temps. Mais il a manqué d'eau. Alors ils se sont dit, mais Moïse, mais attends, tu nous as emmenés dans le désert, pourquoi? Mais Dieu voulait, s'il pouvait parler, mais il allait leur dire, mais c'est pour me servir. Mais oui, mais on manque d'eau. Ça veut dire quoi? C'est du donnant-donnant. On est là pour toi, mais comment on va savoir que tu es là si tu nous donnes de l'eau? Notre relation a pour paramètre principal la prospérité. Il faut que dans ceux qui réjouissent la chair, nous soyons satisfaits. Mais Dieu dit non. Moi, je veux vous amener plus loin. Je veux vous amener à marcher par la foi en moi. Que votre richesse soit la foi. Que votre richesse soit spirituelle. Et vous verrez même que le matériel coulera tout seul. Maintenant, comment Dieu pourra nous amener à cela s'il ne crée pas de vide de matériel, comme il a fait pour eux? S'il n'avait pas le droit de créer de vide d'eau, Dieu sera confondu à quoi? Au matériel. J'ai Dieu, j'ai le matériel. Comment je sais que j'ai Dieu? Quand il y a le matériel. Comment obtenir le matériel? Avec Dieu. Finalement, nous en mathématiques, on représente ça avec des flèches qui regardent dans les deux sens. Une barre avec une flèche à gauche, une flèche à droite, si et seulement si. Donc ça va ensemble, condition sine qua non. Il y a Dieu, il y a le matériel. Il y a le matériel, c'est Dieu. Donc, ce qui fait que, malgré mes fautes, du moment qu'il y a le matériel, c'est que Dieu est avec moi. Voilà la conséquence de l'évangile de prospérité. On réduit Dieu à la satisfaction matérielle. Alors, le côté pernicieux de l'évangile de prospérité, c'est qu'il atteint même des gens qui sont purs d'une manière, entre guillemets, sexuelle. Les gens qui sont purs, qui ne volent pas, qui ne tapent pas, qui n'injurient pas, mais qui ont rendu Dieu matériel. Comme les pharisiens, par exemple, c'est des gens qui semblaient respecter les lois primaires. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Mais c'est des gens qui ont transformé le temple en système économique. Et ils n'envoyaient pas le mal. Du moment qu'ils faisaient tous les rituels préconisés par la loi, du moment qu'ils embellissaient le temple, mais tout était, l'argent et Dieu étaient liés. Et Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Il faut choisir. L'argent est devenu votre maître. C'est ça le problème. La prospérité matérielle est devenue votre maître. Dieu ne peut pas avoir pour support le matériel. Et l'apôtre Paul vient rappeler ça dans Actes 17. Il dit, mais Dieu qui a fait les cieux et la terre ne peut pas avoir pour support un temple fait de main d'homme. C'est une contradiction. Ne cherchez pas Dieu ainsi. S'il a permis un temps, c'était pour nous approcher et non pas pour en rester là. L'évangile de prospérité, voilà, qu'est-ce que ça fait? Ça éloigne les gens de la vraie version de Dieu, qui est le Dieu invisible, le Dieu tout-puissant, et qui veut qu'on fonctionne par la foi. C'est ça l'évangile de prospérité. On veut voir, on comprend que Dieu est là lorsque il nous donne le matériel au moment où nous voulons. Et on sait qu'il est là. Du coup, ceux qui ont du matériel, ils disent, Dieu est avec eux. Finalement, Dieu, c'est le matériel. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Il dit non. Et les parcours des serviteurs de Dieu sont là pour nous le montrer. Joseph, longtemps, est resté en relation avec Dieu, tout en étant en prison, tout en étant jeté dans un puits, tout en étant vendu comme un esclave. Daniel a été mis dans la fosse aux lions. Vous allez dire, mais ils s'en sont sortis, mais il y a d'autres qui ne s'en sont pas sortis. Donc, il y a des gens qui sont morts. Jérémie, il est mort en martyr. Il y a plein de gens qui sont morts, les prêtres de Nob, quand on lit l'histoire de Saül, les prêtres de Nob qui étaient dans la vérité, ils sont morts, tués par Saül. Donc, ça voudrait dire que ces gens-là n'avaient pas Dieu. Au contraire, on voit bien qu'ils avaient Dieu parce qu'ils sont tenus à respecter la volonté de Dieu. Mais, si on doit suivre la logique du matériel, on dira, mais Dieu n'était pas là. Voyez comment, on va prendre un exemple qui nous montre que les enfants d'Israël s'étaient écartés de la vraie notion de Dieu qui était le Dieu invisible, le Dieu qui voulait qu'on le serve en esprit. Ils s'en étaient écartés et eux-mêmes ils le disent, donc on va lire dans Jérémie 44, 15. Jérémie 44, 15. Le contexte, c'est que Jérémie les reprend. Il dit, vous vous comportez mal et Dieu va vous punir parce que vous êtes en train d'adorer la reine du ciel. Ce n'est pas normal ce que vous faites là. On va lire maintenant leur réponse. Vous allez être choqués pour certains par leur réponse. On vous dit, vous adorez la reine du ciel. C'est une abomination. Et voilà les réponses. Verset 15. Tous les hommes qui savaient que leur femme a offré de l'encens à d'autres dieux, toutes les femmes qui se trouvaient là en grand nombre et tout le peuple qui demeurait au pays d'Égypte, à Patros, répondirent ainsi à Jérémie. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire les libations. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. D'ailleurs, lorsque nous offrons de l'encens à la reine du ciel et que nous lui faisons des libations, est-ce sans la volonté de nos maris que nous lui préparons des gâteaux pour l'honorer et que nous lui faisons des libations? Voilà, que disent ces gens-là? Quand Jérémie leur dit, vous êtes dans l'erreur, Dieu va vous sanctionner, il va vous frapper. Ces gens-là disent, attends, quand nous, on a arrêté d'adorer les faux dieux, mais on a manqué de tout. Quand on le faisait, on avait des choses. Ils le disent, hein, froidement, moi ça m'a toujours choqué ce passage. Ils disent, verset 16, nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Ils ont dit, alors, qu'est-ce que tu veux dire? Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. On va continuer à offrir de l'encens à la reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain. Mais quand nous on adorait les faux dieux, on avait du pain pour nous rassasier. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout. Ah bon, Jérémie, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Que ton Dieu donne des choses, c'est lui qui va nous donner. Il va nous donner quoi? Quand on faisait des fausses adorations, on adorait les faux dieux. Il nous donnait. Il y a des soeurs qui vont vous dire, mais moi, quand j'étais païenne, les hommes me regardaient. Ils me proposaient un mariage. Depuis que j'ai choisi Dieu, plus rien. Qu'est-ce qu'on peut entendre à partir de cela? Que ils ont fini par réduire Dieu au matériel. Voilà. Si Dieu existe, eh bien, pourquoi il ne me donne pas ce qui va réjouir ma chair, satisfaire ma chair? Pourquoi il ne pourvoit pas? Ils ont mal compris les promesses de l'Ancien Testament. Les promesses de l'Ancien Testament étaient Dieu disait, si vous obéissez dans Deutéronome 28, vous aurez ceci, cela. Mais pas comme base relationnelle, mais comme conséquence. Mais la vie avec Dieu, c'est une vie en esprit avec des satisfactions spirituelles qui auront pour conséquence des bénédictions matérielles aussi. Mais cette relation-là n'est pas égale aux bénédictions matérielles. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Par exemple, dans Deutéronome 8, Dieu dit aux enfants d'Israël, Il dit, je vous ai amené dans le désert. Vous avez fait 40 ans. Et vous n'avez manqué de rien. Pourtant, vous avez fait 40 ans. Vos chaussures n'ont pas été usées. Que veut dire Dieu? Dans une autre configuration, la logique de la prospérité voudrait que vous ayez 40 chaussures, peut-être une paire par an, pour tenir 40 ans. Mais moi, j'ai pu, par ma puissance, faire tenir vos chaussures pendant 40 ans les mêmes. Le résultat est le même. Il y a une satisfaction des pieds, aux pieds. Mais sauf que ce n'est pas fait selon la logique qui conforte la chair de voir plusieurs chaussures, de voir du matériel dans les yeux, mais c'est par la puissance de Dieu invisible que vos chaussures ont tenu. Voilà la relation que Dieu veut bâtir avec l'homme. Une relation qui tient de la foi, de la croyance que Dieu existe et qu'il est tout puissant, qu'il est le créateur, il est capable de tout. C'est cette relation que Dieu veut avoir avec l'homme tous les jours. Mais dans cette relation-là, il y a de temps à autre des occurrences matérielles, donc où Dieu manifeste sa fidélité par des cadeaux matériels, par une aisance matérielle, mais la privation matérielle n'empêchera pas le bonheur pour autant. C'est ce que Dieu veut nous comprendre dans notre relation. Je ne suis pas égal au matériel, ce n'est pas si et seulement si le matériel. Le matériel peut manquer, mais par ma puissance, je peux vous rendre quand même heureux. C'est ça la vraie relation avec Dieu. S'accrocher à la puissance invisible. Donc Dieu l'a toujours dit, dans Deutéronome 8, il dit, mais le but essentiel des 40 ans dans le désert, c'est vous l'apprendre ça. Que vous devriez vivre de la puissance invisible et non pas du visible. Et les apôtres nous rappellent dans Hébreux chapitre 1er, il faut que vous croyiez que tout ce qui a été créé de l'invisible. Hébreux chapitre 1er. Celui qui, quand, où on parle de la foi, on dit que celui qui croit en Dieu, il doit croire que tout ce qui a été créé par l'invisible. De sorte que nous devons nous attacher à l'invisible. C'est ça le but. C'est ça qui nous rend fort, l'attachement à l'invisible. C'est ça qui fait de nous des partenaires de Dieu. L'attachement à l'invisible de Dieu, à l'invisibilité de Dieu, à la grandeur de Dieu, qui n'a pas besoin de support matériel qui conforte la chair. C'est ça. La réalité. Maintenant, pourquoi alors? Pourquoi si pourquoi Dieu met cette difficulté là de priver de nous priver du matériel? Mais c'est justement pour nous apprendre ça, parce que si on a tout le temps le matériel, on fera la confusion. On considérera que Dieu égale matériel. Alors, il les a amenés dans le désert. Pour qu'ils comprennent que Dieu n'est pas égal matériel. On a été dans un endroit où il n'y a pas d'eau. Dieu pourvoyait à l'eau. Il n'y avait pas de nourriture, il a donné la manne. Donc, une nourriture qui vient directement du ciel. Il veut nous habituer à vivre du ciel, tout simplement. Mais s'il nous donnait tout le temps le matériel, comment on va savoir qu'on peut vivre du ciel? C'est ça le problème. Et que dit David? Psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste. Mais oui, parce que ce malheur-là, c'est quoi? Difficulté matérielle, difficulté sur la chair. Ça l'atteint souvent afin de lui apprendre à vivre du ciel. C'est ça la relation entre Dieu et les gens qui le suivent, entre Dieu et ses enfants, entre Dieu et son peuple. Vivre en esprit. Jésus a dit à la Samaritaine, en esprit et en vérité. C'est ça l'objectif de Dieu. C'est comme ça qu'ont tenu nos gens de l'Ancien Testament. Ils ont tenu comme ça. Quand David peut aller combattre Goliath, ça n'a rien à voir avec le matériel. Il va se baser sur quoi, de matériel? Goliath a 2,50 m. Lui, il a peut-être 1,70 m. Goliath a 4 fois son poids à lui. C'est un soldat expérimenté. Lui n'est rien du tout. Il n'est qu'un berger. Il compte sur quoi? sur la puissance de Dieu que lui peut acquérir par la foi. C'est ça la relation que Dieu veut que nous établissions. Mais l'évangile de prospérité vient enlever cette relation-là. Et je dis bien, Dieu n'est pas contre la prospérité. Mais quand c'est incompris, quand ça commence à être considéré comme étant une égalité avec la relation avec Dieu, c'est-à-dire s'il y a Dieu, j'ai ça. Donc Dieu est égal à la satisfaction de la conception charnelle, là, on n'est plus dans la vérité. On commence à servir deux maîtres. Et Jésus nous prévient, quand on commence à servir Dieu maître, ça finira par ce qu'on haïsse un. Et comme Dieu ne supporte pas le mélange, c'est lui qu'on va finir par haïr. Voilà. J'allais utiliser un terme physique, mais la loi naturelle de la négativité, de la pesanteur, va nous amener à haïr plutôt Dieu. On aura tendance à aimer, à nous attacher au diable, à Mammon. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ça qui a perdu, fait perdre la gloire à l'Église. Aujourd'hui, on ne jure que par le nombre, on ne jure que par le visible, on jure que par ce qui impressionne les yeux, on ne jure que par tout ça, alors qu'on doit revenir à l'attachement aux Écritures. Et c'est vrai, hein, comme Daniel, il prend les Écritures, il voit que Dieu a promis de libérer son peuple 70 ans après. Il commence à prier en fonction de ce qu'il lit, pas en fonction de ce qu'il voit. S'il regardait qu'à ce qu'il voyait, c'était peine perdue. Comme les Néhémies, ils ont pris que la muraille de Jérusalem était tombée. Ils entrent dans la prière et le jeûne. Voilà ce que produit la véritable foi, la véritable relation avec Dieu. Il entre dans la prière et le jeûne. Et c'est Dieu qui touche le cœur du roi Cyrus qui dit, vous pouvez rentrer construire. Je vous donne même l'argent, les moyens, les sauf-conduits nécessaires. Vous pouvez y aller. Ça, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu veut qu'on vive de cela, la puissance de la prière. Il veut. Mais est-ce que vous pouvez comprendre quelqu'un qui envoie ses serviteurs main vide? Il dit, mais je vous envoie faire des trucs, aller faire des disciples. Mais ne prenez ni argent, ni bourse, ni... voilà. L'ouvrier mérite son salaire. Il veut nous apprendre quoi dans Luc, Matthieu 10 ben, à vivre de la puissance invisible. L'évangile de prospérité n'est pas de Dieu. Il nous sort de Dieu. Il amène les gens à s'attacher au visible, à s'attacher aux œuvres, à s'attacher à la progression visible, à la progression qui confronte la chair. Au lieu de s'attacher à la vérité, que dit Dieu? Ce que Dieu dit va s'accomplir, je m'attache à ça. Maintenant, on dit, ah ben, il n'y a pas d'évolution ici, eh ben, on s'arrête. Mais le Seigneur veut qu'on vive en fonction de ses promesses. Quels sont les dangers de la prospérité? Nous voyons ça dans Luc 12. Luc 12. Luc 12, on connaît la parabole du monsieur qui a fait, donc, l'histoire du monsieur qui a fait, qui avait beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Verset 12-13. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, serait-il dans l'abondance? » Et il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, « disant, « Que ferai-je ? Car je n'ai pas de place pour servir, serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute mon âme, toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce ? » Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Mais bien aimé, bien sûr qu'on a besoin d'une voiture pour faire des voyages. Mais Dieu dit, je pourvoirai. Ne cherchez pas des voitures dans une logique de sécurité, de contrôle, d'amasser pour vous-même, pour gérer. Première conséquence de la prospérité, le danger de la prospérité, c'est la suffisance. Croire qu'on peut gérer son avenir, sa vie. Péché d'orgueil, de suffisance. Et qui est une offense à Dieu, qui en réalité tient la vie des gens. C'est une offense à Dieu. Cet homme a dit, ben, je me suis amassé, je peux gérer maintenant mon avenir. Dieu dit, mais attends, c'est pas l'argent. Ton argent, t'en fais ton maître, t'en fais ton gestionnaire d'avenir. Ah non, tu t'es trompé, c'est moi qui suis Dieu. La suffisance, l'autocontrôle, le contrôle de soi-même. C'est ça là le danger. Et ça exclut l'office de Dieu. Quand il a dit, tu finiras par haïr Dieu, bien-aimé, tu finiras par haïr Dieu, c'est ça. Quand on aime le matériel, on finira par haïr Dieu. Parce que l'amour de Dieu sera en contradiction avec ton attachement au matériel. Quand il faudra céder le matériel, par amour pour Dieu, tu ne tiendras pas parce que tu n'aimes plus déjà Dieu. Tu ne t'en es pas rendu compte. L'homme riche qui avait abordé Jésus avait la droiture concernant tous les commandements de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a bloqué ? C'est la prospérité. Jésus lui dit, mais, ah bon, tu appliques toute la loi, mais il y a un problème, c'est que tu as fait de l'argent ton maître. Et on ne peut pas servir deux maîtres. Vends tous tes biens et suis-moi. C'est ça la réalité. Si tu veux servir Dieu, il faut qu'il soit le seul Dieu. Quand Jésus, on lui propose les biens par Satan, quelle réponse il donne à Satan? Il dit, il est écrit qu'on ne servira que Dieu. Parce que Satan lui propose tous les royaumes, les richesses du monde, il lui fait voir tout ça. Il dit, ben, je peux te donner, ben, il suffit que tu me serves. Et qu'est-ce que Satan... Est-ce que, bien-aimé, ça nous est toujours dit clairement que... Satan dit toujours clairement aux gens, serre-moi. Il le dit à certaines personnes. Mais pas à tout le monde. Mais cette phrase-là, cette réponse de Jésus montre que le fait même de s'attacher au bien, c'est une forme de divinisation des biens matériels. Puisque lui, il répond, lui, on lui propose d'offrir, qu'on lui offre les royaumes et les richesses. Lui, il répond, ben moi, je servirai que Dieu seul. Donc, en quelque sorte, en considérant ces royaumes-là, ces richesses, comme étant un objectif en soi, on sert le diable. Prosterne-toi, je te donne ça. Jésus dit non, je ne peux pas te servir. On ne doit servir que Dieu seul. Il dit, ben oui, on ne doit pas servir le matériel. Et le jeune homme riche, Jésus lui dit, mais il y a un problème. C'est que tu as deux maîtres. Tu as deux maîtres. Le matériel a une emprise sur toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Nous devons choisir. qui nous voulons servir. Est-ce qu'on a compris la relation avec Dieu? C'est la relation de l'invisible, c'est la relation de la foi, c'est la relation de la banquette, de la banque au ciel, c'est la relation de l'amour avec, pour Dieu et l'amour de Dieu pour nous. On marche en amour avec le Dieu Tout-Puissant. Il s'occupera de tout puisqu'on marche en amour. C'est ça, la relation avec Dieu. Alors, quand on se permet de rajouter l'attachement au matériel, Jésus dit, tu finiras par haïr l'un. Ça sera qui? Ça sera Dieu. Mais on ne s'en rend pas compte. C'est ça l'avertissement. On ne se rend pas compte qu'on n'aime plus Dieu. Voilà. Nous devons nous réveiller par rapport à cette réalité. Revenons à la véritable relation avec Dieu qui consiste à le saisir par la foi, à considérer ses promesses comme étant vraies et à vivre en amour avec lui, en fusion avec lui. Sa volonté devient la nôtre. On vient de proposer à Jésus de manger. Pas parce qu'il était l'heure, mais parce qu'il avait faim. Puisque avant, il demande de l'eau à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4. Et les disciples étaient partis faire des courses pour manger. Donc ça veut dire déjà il avait soif, forcément, certainement il avait faim aussi. Et donc, quand après avoir évangélisé la dame et les autres personnes, on vient lui proposer la nourriture, il dit quoi? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ayant prêché aux gens, ça m'a comme rassasié. Voilà la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Est-il contre qu'on mange? Non! Il dit, c'est secondaire. Quand Satan s'approche de Jésus, il dit quoi? Si tu es fils de Dieu, matériel, transforme les pierres en pain. L'évangile de la prospérité. Si Dieu est avec nous, ben, on doit avoir des grandes salles, on doit avoir beaucoup de gens qui nous suivent. Si tu es fils de Dieu, allez, c'est où le matériel? Si tu es fils de Dieu, eh bien, descends de la croix. Mais Jésus dit, mais non, je suis fils de Dieu, c'est ce qui est écrit, c'est ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas besoin de transformer les pierres en pain. Je n'ai pas besoin d'être marié pour me sentir bon chrétien. Dieu m'a promis que par sa puissance, il peut combler l'absence de mari ou de femme. Mais nous ne voulons pas vivre cette puissance. Nous voulons qu'il satisfasse la chair pour dire, ah oui, il est Dieu, hein, il a honoré sa promesse, il a dit, dans la maison du Seigneur, la femme sera une vigne féconde, ah, c'est bon. Dieu existe, il a honoré sa promesse, non. Dieu existe avant que je sois créé. Je ne veux pas le réduire à ce que je vive une promesse matérielle. Il existe avant ça. Il n'est pas content qu'on le réduise à une promesse matérielle. Les gens vont dire, mais il n'avait pas qu'à promettre. Mais oui, il a promis ça comme conséquence de notre relation avec lui. Et nous venons dans cette relation avec une attitude de défi parfois ou de troc. Comment voulez on n'est pas dans la bonne attitude. On ne peut pas venir à Dieu dans une attitude de troc. Je le sers, il me donne ce dont j'ai besoin. Je le sers, il me donne ce dont j'ai besoin. Dieu dira, mais non, c'est pas ce que je cherche. C'est pas ce que moi je cherche. Allez. Il nous résistera. Il a dit, je vous ai résisté 40 ans dans le désert afin de vous faire comprendre que vous devez vivre par la parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ma relation avec vous n'est pas une relation matérielle. C'est la relation par rapport à la parole. Mais s'il voit dans notre esprit qu'il y a un troc, il ne va pas souscrire à ça. Que voudrait quelqu'un qui est amour, le meilleur pour les gens avec qui est en relation, pas le médiocre. Parce que ces choses que nous cherchons, les chrétiens qui ont dévié ou qui ont mal compris cherchent. Mais les païens ont ça. Ça voudrait dire que Dieu est avec eux. Non. Et que Dieu nous a réservé le meilleur. La relation sur l'invisibilité, la relation qui a fait que la prison chez Paul s'est cassée. Les chaînes ont été cassées, Paul a été libre. Mais est-ce que Paul a tout le temps vécu des chaînes qui se cassent en prison? Ben non. On a vu qu'il a été emprisonné pendant longtemps jusqu'à aller à Rome. Pendant longtemps, il a été emprisonné. Mais il vivait de la puissance céleste. C'est ça notre appel, notre vocation céleste. Notre appel, c'est ça, à vivre du ciel. Ça, il faut que ça soit compris une fois pour toutes. Parce que certains vont croire que c'est à partir du Nouveau Testament. Non, c'est dès l'Ancien Testament. Toutes les guerres d'Israël, c'était face à des grands pays. Et donc, ils gagnaient toujours par la puissance du ciel. Quand Sanchérib, c'est un ange qui s'est levé, qui a tué 180 000 personnes. Et ils sont venus, ils ont trouvé tout le monde était déjà mort. C'est ça la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. Quand ils arrivent devant la mer Rouge, ils commencent à murmurer, mais on va faire comment? Dites-nous Moïse. Dieu dit à Moïse, dis-leur d'arrêter de crier. Étends ta main. C'est ça. Il veut une délivrance qui vienne du ciel. Qu'on entre dans cette relation céleste, dans une relation dans l'invisibilité. Et ça fait de nous des princes célestes. Des gens face à qui aucun démon ne peut résister. Mais quand on est dans une logique de troc, telle que nous l'enseigne l'évangile de la prospérité, on est dans l'erreur. On finit par haïr Dieu lui-même. Quiconque est la façon dont Dieu veut bâtir une relation, il est Dieu lui-même. Il ne peut pas dire, sa façon je n'aime pas, mais je l'aime lui. Ah non, ça ne marche pas. Si tu n'aimes pas la façon dont Dieu veut bâtir une relation avec toi, tu ne l'aimes pas lui-même non plus. Parce que lui, c'est comme ça qu'il se manifeste. C'est lui, c'est comme ça qu'il veut la relation. Que le Seigneur nous parle, que nous puissions bâtir une relation dans l'invisible. Est-ce que c'est une fuite par rapport au matériel? Non. Nous disons tout simplement, Dieu nous amène dans le meilleur. Et nous verrons que et c'est pourquoi je n'aime pas trop donner des témoignages de ce que Dieu fait dans le matériel, parce que je ne veux pas qu'il y ait cette confusion-là, que les gens pensent que si tu es avec Dieu, c'est pour qu'il fasse des surprises matérielles, des miracles. Non, Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu. Il existait avant nous. Il n'a pas de temps. Il n'a pas besoin de tout ça. Il veut qu'on croie justement en ça, qu'il est Dieu, et que quand on est dans cette fusion-là, réellement, aucun matériel ne peut nous manquer. Mais il n'y a pas de fusion avec le matériel. Il y a juste le fait que, finalement, on va se rendre compte que même le matériel qu'on pensait être utile ne l'était pas. Finalement, ça ne va pas nous manquer, pas parce que Dieu nous l'aurait donné forcément, mais parce qu'on aurait eu plus. Je réexplique ce que je viens de dire. C'est-à-dire, quand on fusionne avec Dieu, quand je dis aucun matériel va nous manquer, ce n'est pas dans le sens forcément qu'il nous donnera ça. C'est dans le sens qu'il nous comblera de sorte que parfois il nous donne, parfois, sans nous donner, ça ne nous manque plus ce qu'on cherchait avant. Parce que le Seigneur a comblé ce qui manquait, par son esprit, par sa puissance. De sorte qu'on pourra dire comme David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pas dans le sens qu'il nous donnera toujours la chose visible et physique, mais dans le sens que, pour certaines choses, on n'en aura même plus envie, parce qu'on est dans une autre dimension. Dernièrement, j'ai expliqué à quelqu'un qui m'avait appelé, qui a quitté l'église, ça fait des années, mais il m'a appelé pour me dire, écoute, voilà, tu es toujours mon pasteur et sache que j'ai gardé tous tes enseignements, c'est ce que je pratique. Je suis dépassé. D'ailleurs, c'est la personne que Dieu a utilisée pour confirmer que c'est le message que je dois donner pour le moment, partout. C'est ce message-là, parce qu'il m'a dit, voilà, je suis outré de voir que partout où je passe, on ne parle que de la prospérité, du matériel. Mais j'ai gardé les enseignements que tu avais donnés. Et donc, quand j'avais déjà reçu de donner cet enseignement, et quand il m'a appelé pour me dire ça, j'ai dit, ben, le Seigneur confirme, c'est ce que je dois dire aux gens. Il dit, mais les gens ne parlent que de ça. Mais moi, j'ai gardé les enseignements que tu avais donnés. Je lui ai dit, frère, il faut savoir que je ne prêche pas cela par esprit de... par masochisme, c'est-à-dire que tu te fais mal toi-même, mais tu as choisi une façon de d'agir et tu es prêt à te faire mal toi-même. Moi, j'ai dit non, j'ai pas mal, je suis heureux de manquer, je suis heureux. Dieu est avec moi, je suis bien avec Dieu. Les autres de l'extérieur peuvent avoir l'impression qu'il me manque des choses matérielles, mais moi, je n'ai pas ce manque-là. Je suis bien, je ne prêche pas ce que je prêche par esprit de sacrifice. Je prêche cela parce que ça me rend heureux, parce que je suis heureux avec Dieu. Voilà, il ne faut pas se méprendre parce que certains pourraient me voir de l'extérieur pour dire « mais il endure tout ça pour Dieu ». Non, je n'endure rien, je suis bien. Voilà, c'est cela quoi. Et c'est la relation que Dieu veut qu'on établisse avec lui. C'est pas une confusion entre Dieu et le matériel. On ne peut pas servir de maître. Jésus a refusé de transformer les pierres en pain. Il a refusé, il a dit. Il a dit que je suis son fils. Parce que juste avant ça, le Seigneur avait dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Ça suffisait au Seigneur. Il n'avait pas besoin de le prouver en transformant les pierres en pain. Vous savez tout ce qu'il pouvait le faire. Hein? Mais il voulait qu'on nous enseigne que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité. Ce n'est pas transformer les pierres en pain. Voilà. Ensuite, on lui propose quoi? Les richesses, le royaume. Il dit non. Donc l'évangile de la prospérité, la guerre entre l'évangile de la prospérité et l'évangile de Jésus, c'est 2 Luc 4 qu'on va lire pour clôturer. 2 Luc 4, c'est la grande, bon j'allais dire c'est la grande révélation que j'ai reçue, en tout cas c'est la révélation que j'ai reçue, que ça a été le combat de Jésus. L'évangile de la prospérité, ça n'a pas été une histoire de femme. Ça a été le combat, ça a été l'évangile de la prospérité, ça n'a pas été, c'est ça quoi. Luc 4. Ça n'a pas été une histoire d'être le champion du temple. Non, ça a été l'évangile de la prospérité. Relisons. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Première étape de la prospérité, c'est quoi? Satisfaction des besoins normaux. La prospérité ne vient masquer. Ça ne vient pas tout de suite à te dire, il te faut 4 Mercedes. Il te faut un château. Non, frère, il faut que tu manges quand même. Si Dieu est normal, c'est bien que tu dois manger, non? Ah, voilà la voix du diable. Mais si Dieu est normal, attends, tu as fait 40 jours, tu as fini ton jeûne. Et où est la nourriture? Ben, tu n'as qu'à transformer les pierres en pain. Si vraiment tu es le fils de Dieu. Si vraiment il s'agit de Dieu là. L'évangile de la prospérité vient déjà. Voilà. Mais comment se fait-il qu'on est de Dieu? On est pauvre. Voilà. Où est Dieu dans ça? Ah non, non, mon Dieu, ce n'est pas le Dieu de la pauvreté, mon Dieu. Mais. Et c'est comme ça qu'on te sort. Tu te dis toi-même, ah oui, mais c'est vrai. Mais Dieu quand même. Il voit bien qu'on n'a pas de quoi manger. Il voit bien que... Mais pourquoi il ne donne pas? Au lieu tout simplement de demander à Dieu, « Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai besoin. » On te pousse plutôt à le critiquer. Ça commence comme ça, l'évangile de la prospérité. On te pousse plutôt à changer de doctrine. Ah oui, si Dieu est Dieu, il faut qu'il nous donne la nourriture. Ça devient « il faut qu'il nous donne ». Jésus a dit, « Je ne veux pas employer des « il faut ». j'ai besoin de Dieu. Et cela me suffit. S'il estime que je dois manger maintenant, je mangerai. S'il estime que je dois attendre, j'attendrai. Je fusionne avec mon Père. Voilà. Deuxième étape de la prospérité, qu'est-ce qu'on propose? On propose, il est écrit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre, c'est-à-dire les richesses et ainsi de suite, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Deuxième étape, c'est de proposer l'enrichissement majeur, la grandeur majeure, professionnelle et matérielle. Quelque chose de majeur, quelque chose de grand, professionnellement et matériellement. Une réussite grande. Prospérité matérielle, au-delà du nécessaire. C'est ça, au-delà du nécessaire. Tu peux avoir plusieurs voitures, tu peux avoir des maisons, voilà moi, et il va donner son témoignage, voilà moi je suis fils d'ouvrier, voilà comment Dieu m'a béni, je suis cela. Et on va te des choses dont tu n'as pas besoin, on te dit, mais oui, tu peux les avoir, change de doctrine. Jésus a dit, non, je ne servirai que mon Dieu me suffit, à lui seul, il dépasse toutes les richesses que vous me proposez. Je reste avec lui. Et dernière étape, c'est la gloire du succès, de la renommée. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, verset 9, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Donc, quel est le troisième niveau? La renommée, la popularité qu'on atteint, entre autres, par le miraculeux. On va dire, ah oui. Si Dieu est avec nous, on doit faire beaucoup de miracles. On doit, voilà, on veut nous emmener dans le miraculeux. Et là même aujourd'hui ils sont arrivés même à entrer dans la sorcellerie. Un vrai pasteur doit pouvoir voyager spirituellement, astralement pour pouvoir faire des trucs. Voilà, donc ça va toujours plus loin. Donc la tentation du miraculeux, de l'extravagance, la tentation d'Adam. Si tu manges du fruit, tu deviendras comme, ben comme Dieu. Tu entreras dans le monde de l'invisible et du miraculeux. Voilà. La gloire sera à toi. Quand les gens verront que tu sautes du pinacle du temple et que tu ne meurs pas parce que les anges t'ont porté, oh, quelle gloire, quelle renommée, le miraculeux va te rendre célèbre. Jésus dit non, je n'ai pas besoin de forcer Dieu à faire un miracle pour que je croie qu'il existe. Je crois en sa parole, il existe. Il m'a dit je suis son fils, je crois. Amen. C'est ça, bien-aimé. Les gens vont dire, mais oui, vous dites que vous êtes des chrétiens, mais un tel est mort du cancer, non? Pourquoi vous n'avez pas guéri votre frère, là? On ne va pas obliger Dieu à guérir notre frère pour que nous croyons qu'il existe. Il existe malgré tout. Voilà. On aurait aimé qu'il guérisse, il n'a pas guéri. Mais Dieu existe. Dieu existait avant même tout ça. Donc voilà, bien-aimé, Jésus a vaincu cela. Au contraire d'Adam qui est tombé dans ça. Mange le fruit. Nous sommes toujours dans le matériel. Il a mangé. Le fruit était beau. L'évangile de la prospérité, c'est dès le commencement. Et Jésus est venu vaincre ça. Et j'avais dit une première conséquence, c'était la suffisance, c'était l'orgueil. Pour finir, je vais dire une deuxième conséquence. C'est 1 Timothée 6 qui nous le dit. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de la prospérité nous conduira à commencer à mentir. 1 Timothée 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont égarés de la foi, l'amour de l'argent, racine de tous les maux. Hein? Car ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. C'est-à-dire que tu commences à mentir pour gagner de l'argent. Tu vas mentir. Tu vas faire travailler les gens dans le noir, au noir. Pour gagner de l'argent, tu vas donner de fausses prophéties. Pour gagner de l'argent, tu vas vendre plus que le prix qu'il faut. Et cet amour de l'argent va faire que, puisque tout le monde aime l'argent, tu auras envie d'utiliser tout le monde comme des produits de consommation. Les femmes, les hommes, les enfants, tout le monde va devenir un produit de consommation. Puisqu'avec l'argent, Ecclésiaste 10, 19, on peut tout acheter, on peut tout faire. Voilà l'autre danger, c'est que la plupart des maux qu'on connaît dans le monde viennent de la prospérité. L'amour pour la prospérité. Ça vient de l'amour pour la prospérité. La plupart des maux. Quand tu aimes la prospérité, tu vas vouloir te maintenir. Et quand ça t'échappe entre les doigts, tu vas où? Chez qui? Comme Saül, tu vas chez qui? Chez une voyante. Alors que récemment, tu les avais éliminés du pays, mais puisque tu veux rester roi, tu veux rester prospère, tu vas voir une voyante. C'est ainsi que beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de gens qui étaient peut-être des vrais chrétiens, qui finissent par, en tant que pasteurs, vouloir la gloire, aller consulter des magiciens ou des pasteurs flous, mais ils vont quand même, puisqu'ils veulent la gloire. Attention, bien-aimés. Ça, je pense que c'est un des derniers avertissements du Seigneur. Il revient bientôt. Revenons à la vérité. Ne laissons pas la prospérité, l'amour pour la prospérité, ni la prospérité par ailleurs, nous tromper. Attachons-nous à Dieu, le Dieu invisible, qui a amené son peuple dans le désert afin de l'adorer, afin de le servir. Dieu nous suffit. Ne changeons pas de doctrine. Revenons à la vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Père éternel, nous te bénissons pour ta parole qui nous montre comment Jésus, ton fils, a vaincu face à 3 missiles de l'évangile de la prospérité dans Luc chapitre 4. Il a vaincu cela par amour pour toi et par la foi en toi, Seigneur. Nous voulons l'imiter, entrer dans une vraie relation avec toi, une relation d'amour, de fusion et de foi qui fera que nous n'aurions pas besoin du visible, nous n'aurions pas besoin de la satisfaction, du contentement, de la réjouissance, du renforcement de la chair, mais nous pourrions faire des choses par amour, dans l'amour avec pour toi et aussi dans la foi en toi, le Dieu invisible, mais pourtant réel, plus que ce que nous voyons. Aide-nous à revenir à la vérité. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen.